Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez fréquente, surtout en ville, où l'espace est cher. Comment aménager son sous-sol ? On va décortiquer ça en s'appuyant sur un guide pratique, aménagement sous-sol, conseils, astuces et prix. L'idée, c'est de voir comment transformer cet espace, souvent un peu oublié, en une vraie pièce de vie. Et voir aussi comment ça peut valoriser un bien immobilier. Parce que oui, pourquoi s'y intéresser ? Bah, c'est une façon assez maligne de gagner des mètres carrés, parfois 20, 30, même 50% de surface en plus, sans avoir à faire d'extension. Et puis, ça peut aussi faire grimper la valeur de la maison ou de l'appartement de 5 à 15%, pas négligeable. Sans parler de créer enfin ce bureau pour télétravailler ou une salle de jeu pour les enfants.
Tout à fait. Le potentiel est souvent là, juste sous nos pieds. Mais attention, avant de rêver à la salle de ciné, il y a une étape cruciale, l'évaluation. Il faut vérifier si c'est faisable, techniquement. Il y a trois points vraiment essentiels à regarder. Le premier, c'est la hauteur sous plafond.
Ah oui, ça c'est la base.
Exactement. Pour qu'un espace soit considéré comme habitable légalement, il faut au minimum 2,20 m. Et attention, hein, il faut penser qu'on va ajouter de l'isolation, peut-être un faux plafond. Ça prend facile 10-15 cm. Donc il faut vérifier qu'on ne passe pas sous la barre des 2 mètres une fois tout ça posé. Sinon, l'usage sera limité. Sauf à faire des travaux très lourds comme décaissement.
Décaissement, c'est-à-dire creuser le sol.
Oui, voilà. Creuser pour gagner de la hauteur. C'est complexe et ça coûte cher. Deuxième point, tout aussi critique, l'humidité. C'est un peu l'ennemi public numéro un du sous-sol.
J'imagine bien, les odeurs de enfermer, les taches.
C'est ça, il faut inspecter mur et sol. Un petit hygromètre, ça aide bien. Si le taux d'humidité dépasse les 65%, alors là, une ventilation mécanique, une VMC, ça devient indispensable. Et il y a des traitements possibles, bien sûr. Le cuvelage, qui est une sorte de coque étanche à l'intérieur, le drainage extérieur, des injections de résine dans les murs.
Ok. Et ça mène au troisième point, j'imagine, la ventilation.
Exactement. C'est fondamental pour avoir un air sain, surtout dans un espace confiné. Une VMC simple flux qui extrait l'air humide, ça peut suffire si le problème d'humidité est léger. Mais si on veut en faire une vraie pièce de vie, une chambre, un bureau où on passe du temps, alors une VMC double flux, c'est mieux. Elle renouvelle l'air, mais récupère la chaleur de l'air sortant.
D'accord. Pour le confort et les économies d'énergie, donc.
Oui. Ou alors, une VMI, ventilation mécanique par insufflation, qui, elle, insuffle de l'air neuf, souvent préchauffé.
Bon, ok. Admettons que techniquement, ça passe. Hauteur ok, humidité gérable, ventilation prévue. Là, on attaque la partie administrative, la paperasse.
Oui, et il ne faut pas la négliger. Ce n'est pas juste « je bricole dans ma cave ».
Non, j'imagine bien, surtout en France.
Alors, si on crée plus de 5 mètres carrés de surface de plancher et avec une hauteur de plus d'1,80 m, il faut au minimum une déclaration préalable de travaux.
Déclaration préalable, ok.
Si on dépasse 20 mètres carrés ou même 40 mètres carrés dans certaines zones qui ont un plan local d'urbanisme, un PLU, ou alors si on touche à la structure du bâtiment, au mur porteur, à la façade, ou encore si on change la destination du lieu, typiquement la cave qui devient une chambre.
Ah oui, changement de destination.
Voilà. Dans tous ces cas-là, c'est permis de construire obligatoire.
D'accord. Et l'architecte ?
Alors, l'architecte devient obligatoire si la surface totale de la maison ou de l'appartement après les travaux d'aménagement du sous-sol dépasse 150 mètres carrés. Et puis, il y a les normes d'habitabilité à respecter pour que la pièce soit reconnue comme telle. Surface minimale de 9 mètres carrés, la fameuse hauteur de 2,20 m, un éclairage naturel suffisant.
Suffisant, c'est-à-dire ?
En général, la surface des ouvertures, fenêtres ou autres, doit être au moins égale à 16e de la surface au sol, plus la ventilation, les raccordements, l'isolation et une issue de secours.
C'est assez strict, finalement. Passons aux travaux eux-mêmes. L'isolation, vous en parliez, c'est un point clé, j'imagine.
Ah oui, c'est fondamental. Un sous-sol bien isolé, ça peut réduire les pertes de chaleur de toute la maison de près de 10%. C'est énorme. Et il faut choisir les bons matériaux, surtout, qui résistent bien à l'humidité. On pense au polystyrène extrudé, le XPS, ou le polyuréthane, le PUR. Le liège expansé ou le verre cellulaire sont aussi d'excellentes options, bien que plus chères.
Et si on veut des matériaux plus écolos, type laine de roche ou fibre de bois?
C'est possible, mais alors là, il faut être hyper vigilant sur le pare-vapeur pour bloquer toute humidité et avoir une super ventilation. Sinon, c'est la catastrophe assurée. L'idée, c'est vraiment d'avoir une isolation continue. Mur, sol, plafond. Pour le sol, souvent on met un film plastique, puis les panneaux isolants et une chape par-dessus. Pour le plafond, des panneaux rigides fixés dessous.
Compris. Et pour l'électricité, la plomberie, dans ce milieu potentiellement humide, y a des précautions particulières ?
Ah oui, sécurité maximale. L'électricité, c'est la norme NFC 1500 à la lettre. Ça veut dire des circuits dédiés, protégés par des différentiels 30 millions paires, très sensibles. Il faut utiliser des gaines et des boîtiers étanches, classés IP54 au minimum. Les câbles doivent être plutôt en hauteur, pas au sol, et une mise à la terre impeccable, évidemment.
Et la plomberie ? Si on veut mettre un point d'eau, des toilettes ?
Le souci principal, c'est souvent l'évacuation. Si le réseau d'égouts de la ville est plus haut que le sol du sous-sol...
Ce qui est fréquent, non ?
Très fréquent. Eh bien, il faut installer une pompe de relevage. Une pompe qui va pousser les eaux usées vers le haut, jusqu'au réseau. Et il faut prévoir une bonne pente pour les tuyaux d'évacuation, au moins 2%, et des clapets anti-retour pour éviter les mauvaises surprises.
D'accord, c'est technique. Une fois tout ça bien cadré, on peut enfin penser à l'aménagement. Quelles sont les idées les plus courantes ou les plus sympas ?
Alors, là, les possibilités sont vastes. La salle de cinéma maison, c'est un grand classique. Le sous-sol est parfait pour ça. Peu de lumière naturelle, facile à isoler phoniquement.
Ah oui, bonne idée.
On peut faire une salle de sport. Là, il faudra penser à un sol un peu technique qui amortit les chocs et une ventilation vraiment renforcée. Des miroirs pour agrandir l'espace. Un bureau, c'est très demandé avec le télétravail. Important. Un bon éclairage, type lumière du jour, pour compenser le manque de soleil. Et une bonne isolation phonique aussi, pour être tranquille.
Une chambre d'amis ?
Aussi, oui. Bien isolée thermiquement et acoustiquement, avec un chauffage efficace, une bonne VMC toujours, et un éclairage soigné pour que ce soit chaleureux. On peut même imaginer un studio indépendant. Mais là, attention à bien respecter toutes les normes d'habitabilité qu'on a évoquées. Ou plus simplement, une buanderie super fonctionnelle, ça libère de la place en haut.
Ça donne des idées ? Reste la question du budget. Ça coûte combien, en gros, tout ça ?
Ah, la fameuse question. C'est très, très variable. Pour donner une fourchette très large, disons qu'un aménagement simple, type bureau ou chambre d'appoint, ça peut tourner entre 300 et 800 euros du mètre carré.
D'accord.
Si on veut une vraie pièce de vie avec salle d'eau, finition plus poussée, là, on grimpe vite entre 1 000 et 2 400 euros du mètre carré, voire plus. Ce qui pèse lourd dans la balance, c'est surtout l'état initial. Est-ce qu'il faut décaisser ? Ça, ça coûte cher. Et surtout, quel est le niveau d'humidité à traiter ? L'étanchéité complète d'un sous-sol, ça peut chiffrer de 3 000 à 10 000 euros, facilement.
Ah oui, quand même !
Après, il y a des postes comme la dalle béton, l'isolation elle-même, l'électricité. Mais il y a aussi des aides possibles, heureusement. MaPrimeRénov' pour l'isolation, l'éco-prêt à taux zéro, parfois la TVA à taux réduit à 5,5% sur certains travaux de rénovation énergétique. Il faut se renseigner.
Bon, pour résumer tout ça, aménager son sous-sol, c'est clairement un projet qui demande de la rigueur technique, mais le potentiel est là, surtout dans les zones tendues comme à Paris. Les points de vigilance, si je récapitule, bien évaluer la faisabilité au début, hauteur, humidité, structure. Respecter scrupuleusement les règles d'urbanisme et les normes techniques. Et ne pas lésiner sur la qualité des travaux clés. Étanchéité, isolation, ventilation.
Exactement. Et j'ajouterai un point important, la lumière. Puisqu'il y en a peu, naturellement, il faut vraiment soigner l'éclairage artificiel. Jouer avec différentes sources de lumière, des couleurs claires au mur et au plafond, ça change tout pour rendre l'espace agréable et pas du tout anxiogène.
C'est une excellente remarque. Pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Au-delà du simple gain de mètre carré, très fonctionnel, est-ce que finalement, redonner vie à cet espace, souvent un peu sombre et délaissé, ça ne change pas aussi positivement notre rapport à toute notre maison, notre façon de la vivre au quotidien ?
C'est une très bonne question. Je pense que oui. Réhabiliter un espace oublié, ça peut vraiment apporter une nouvelle énergie à tout le lieu de vie.